Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour ce forama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Thierry, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bienvenue à Kinshasa.
Merci. Amdine Si est en direct de Dakar au Sénégal. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc d'ici là, on aura Amine Birouk depuis Casablanca et Élisée Mkwatine à Boïkon au Bénin. Nous allons commencer cette émission en rendant un hommage à un grand joueur de l'histoire du football africain et mondial d'ailleurs. Des End vers un nouveau défi, c'est par ce coup message publié sur le réseau social Instagram que Samuel Eto'o a annoncé sa retraite vendredi dernier. À 38 ans, le Lion Indomptable a décidé de raccrocher donc les crampons définitivement, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Moyen-Orient, l'attaquant aux 118 sélections et 56 buts marqués sous le maillot du Cameroun va donc s'élancer à la conquête d'autres objectifs, mais plus en tant que joueur professionnel. En plus plus de 20 ans de carrière, soyons précis, Samuel Eto'o s'est bâti un immense palmarès, lui qui a débuté sa longue carrière au Real Madrid en 1996. N'arrivant pas à s'imposer au sein de la Maison Blanche, il a ensuite rejoint Mallorca, où il a réellement pu livrer la pleine mesure de son talent. C'est néanmoins au FC Barcelone que le Camerounais a pris une autre dimension, concluant son aventure catalane avec un triplé championnat coupe Ligue des Champions en 2009, avant de rééditer pareille performance l'année suivante avec l'Inter Milan de José Mourinho. Au final, l'armoire à trophée du redoutable avant-centre comprend, entre autres, 3 Ligues des Champions, une Coupe du Monde des clubs, plusieurs coupes et championnats nationaux, ainsi qu'un titre olympique remporté en 2000 et 2 cannes remportées avec la sélection camerounaise en 2000 et 2002. Alors, Eto'o a en outre été élu joueur africain de l'année à 4 reprises, 2003, 2004, 2005 et 2010. Alors, Jules, vous le voyez, on dirait simplement que c'est un baobab du foot africain qui quitte définitivement les pelouses.
Oui, c'est le palmarès le plus impressionnant du football africain et même au niveau mondial, c'est un des plus importants. Vous avez cité tous ces trophées, toutes ces distinctions, mais il y en a encore d'autres. Vice-champion du monde des confédérations en 2003, on s'en souvient encore, et ma foi, meilleur joueur de la Coupe du monde des clubs en 2010, etc. Bon, alors Eto'o se distingue surtout par le fait que sur le terrain, c'est un joueur altruiste qui sait faire un équilibre entre le jeu individuel et le jeu collectif, qui sait passer en finesse et exploser, mais en même temps, qui sait aussi être gentil avec l'arbitrage, avec les arbitres, l'entourage, le public, et qui a également une dimension intellectuelle comparable à son aîné et Antoine Bell. Il fait le bonheur des journalistes, vraiment rien que des superlatifs. C'est un très grand joueur qui se retire.
Alors Thierry, vous qui avez manqué de payer une interview avec le Camerounais, dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de Samuel Eto'o?
C'était un très 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 grand joueur, l'un des meilleurs de l'histoire du continent africain, qui a marqué non seulement le Cameroun, l'Afrique, l'Europe, mais la planète du football entière justement, avec ce palmarès si élogieux que vous avez dressé. Je retiendrai de lui également que l'annonce de la fin de sa carrière a été faite ici à Kinshasa, que Samuel Eto'o visite régulièrement ces derniers temps. Elle a vu aux côtés du président de la CAF être reçu par le président de la République du Nouveau, Félix Tshisekedi. On l'a vu régulièrement en visite privée ou officielle ici. Et là, il a profité d'un grand forum économique sur l'entrepreneuriat, le Maputano, comme on l'appelle ici, qui a vu d'ailleurs, qui a tenu la présence de deux chefs d'État, le président de la RDC, celui du Niger. Samuel Eto'o était en train justement d'exposer sur l'entrepreneuriat chez les jeunes. Il parlait de son expérience de footballeur avant d'annoncer justement une exclusivité de Kinshasa à la presse après 24 ans à courir, Samuel Eto'o a décidé de raccrocher le crampon. Je suis fatigué, j'ai couru pendant 24 ans maintenant. j'arrête ce qu'il a dit. Et puis voilà, il a évoqué plein de souvenirs de lui comme footballeur. Et puis il a dit qu'il reste ouvert à d'autres propositions ou à d'autres horizons. Donc je retiens de lui un immense joueur qui a fait notre fierté, suivre la Ligue des Champions à la télévision avec un Samuel Eto'o qui brillait. Tant avec Barcelone qu'avec l'Inter Milan, c'était un honneur. Le voir briller également depuis la sélection olympique avec le Cameroun, puis chez les seniors à la CAN 2000, etc. Et toutes les compétitions et les titres individuels qu'il a remportés. C'était un honneur, mais une tâche noire pour moi, ce garçon aurait bien mérité, on va dire, de remporter un grand trophée européen à titre individuel. Il était frustré, hein, rappelez-vous des années de gloire de Samuel Eto'o avec le FC Barcelone. Il a dit, si je n'étais pas africain, peut-être que je me serais retrouvé ballon d'or. Il avait largement le talent, les statistiques parlaient pour lui. Donc, malheureusement, le jury du moment, le vote du moment ont fait notre choix. Mais dans tous les cas, avec le trophée qu'il a remporté en Afrique et en Europe, on sait très clairement dire que Samuel Eto'o, c'est l'un des immenses joueurs de l'histoire du football africain.
Alors, Amdine, on sait que Samuel Eto'o n'a pas remporté la Coupe du Monde, mais le trophée peut-être qui était le plus proche de lui, c'est effectivement celui de le trophée individuel de Ballon d'Or. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que finalement, c'est ce qui manque véritablement au palmarès du Camerounais?
Tout à fait, Yacouba, vous avez raison de le dire. C'est le Ballon d'Or européen qui manque à son palmarès parce que, comme l'ont dit tantôt mes prédécesseurs, Samuel Eto'o, c'est un baba, c'est un digne ambassadeur du football africain. Il a tout fait au niveau du continent européen. C'est vrai qu'il lui manque le ballon d'or. Heureusement qu'on l'a eu avec un certain Georges Weah, mais Samuel Eto'o aussi a été barré par le duo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Il est tombé sur ce duo de ces deux monstres du football, c'est pourquoi il n'a pas gagné le ballon d'or. C'est vrai qu'à un certain moment, il a rivalisé avec eux. Mais comme vous le savez, quand un Africain brille et un Européen ou un joueur qui vient du Brésil ou de l'Argentine brille, forcément, les gens ont tendance à favoriser ces joueurs. Mais Samuel Eto'o n'a rien à envier à ces grands footballeurs puisque sur le plan statistique, sur le plan comportement, il a même battu des records. Il a fait des choses que Ronaldo et Cristiano Ronaldo et Messi n'ont pas fait. Par exemple, Lionel Messi, par exemple, il est devenu le seul joueur à remporter deux triplés, championnat, Ligue des Champions et Coupe consécutive. Cristiano Ronaldo ne l'a pas fait, Lionel Messi ne l'a pas fait, donc chapeau bas à ce grand monsieur du football. Moi, je prie pour qu'il reste au niveau du football parce que Samuel Eto'o n'a pas le droit de quitter le football. Il doit encore rester pour servir les jeunes footballeurs africains et Yacouba.
On saura donc d'ici là à quoi va se donner Samuel Eto'o. Alors, Amine, bonsoir déjà. Alors, quels enseignements peut-on tirer de l'immense carrière de Samuel Eto'o?
La volonté peut mener à tout. La volonté qui l'a poussé à émigrer très jeune et à venir en Espagne. Ensuite, la capacité à se remettre en question, puisqu'on le voyait remplaçant Real Madrid dans les catégories de jeunes. Il est parti chez le club ou l'ennemi héréditaire pour pouvoir se faire sa place. Et ensuite, il ne s'est pas reposé sur ses lauriers, puisqu'on l'a vu poursuivre sa carrière avec succès, que ce soit à l'Inter de Milan ou au sein de l'équipe de Chelsea. On a eu également droit à quelqu'un qui défendait ses droits sur le terrain. Il ne s'est jamais laissé marcher sur les pieds, comme en témoigne, je dirais, sa relation ou sa fin de relation orageuse avec Pep Guardiola. Et puis, en équipe nationale, quelqu'un qui a su mener le Cameroun vers le très très haut niveau, que ce soit en équipe olympique très jeune en 2000 ou encore lors des deux épopées de la sélection camerounaise en 2000 et 2002. Dommage que le Cameroun avec lui n'ait pas réussi à faire de grandes coupes du monde, et dommage aussi qu'il était, comme l'ont dit les collègues, dans l'ombre de Cristiano Ronaldo et de Messi. Lui, Didier Drogba, visiblement aurait mérité au moins une consécration comme le prestigieux Ballon d'Or. Mais il n'en demeure pas moins que c'est aussi un self-made man qui a réussi à se reconvertir dans le monde des affaires. Il est aujourd'hui respecté, écouté, au point où le président de la CAF l'a présenté en tant que son conseiller. J'espère qu'il arrivera à l'orienter vers la bonne direction pour le football africain, car visiblement, on a besoin d'anciens joueurs, d'anciens gloires respectés, d'icônes qui pourraient enfin parler football au sein d'une CAF aujourd'hui polluée par les rumeurs et les affaires.
Et donc, on va souhaiter tout le meilleur à Samuel Eto'o. Vous suivez Sporama, suivez Afrique. L'émission revient tout de suite. Parlons à présent des matchs retour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans, Égypte en 2019 qui se joue en décembre. On connaîtra les qualifiés demain. Après son match nul 1-1 à domicile, le Maroc fera face au Mali. Demain donc à Bamako pour la rencontre retour et dans le cadre de la préparation de ce match-là, eh bien, les Lyonceux Espoirs ont disputé un match amical face aux étalons du Burkina ce week-end. Victoire des Marocains 1-0. Pas trop rassurant pour le coach Patrice Baumel qui se méfie de l'adversaire malien. On l'écoute.
Pas le meilleur des résultats, ceci dit, c'est comme si c'était un 0-0. Il nous faudra marquer à Bamako et pas encaisser de but. L'équipe du Mali a une certaine maturité, ce sont des joueurs qui se connaissent, on le voit dans les mécanismes, les automatismes, mais on a un match retour et on va vendre très cher notre peau parce que il y a eu quelques messages sur le terrain deuxième mi-temps, il va falloir y aller, faire un match d'homme. Et je pense que les garçons, sur la deuxième mi-temps, ils ont vu qu'il faut être des hommes de la première mi-temps à la deuxième.
Patrice Baumel, sélectionneur des Lyonceaux de l'Atlas U23, au micro d'Amine Birouk. Alors Amine, cette victoire face au Burkina est bien pour le moral, quand même, pour ce match capital de demain.
Juste pour rectifier, Yacouba, la victoire face au Burkina, c'était pour de la part de l'équipe locale qui prépare son éliminatoire du Chan.
Ah, autant pour moi.
Les Olympiques, eux, ont disputé leur rencontre samedi face au Mali. Ils ont peiné face à un adversaire qui avait beaucoup plus d'automatisme. Et il est vrai aussi que la greffe des quatre joueurs venus des Lions de l'Atlas, qui avaient le droit, vu l'âge requis, de disputer cette rencontre, Hakimi de Dortmund, de Mazraoui de l'Ajax, Enciri de Leganés et Mendil de Dijon, n'ont pas apporté la plus-value. Une équipe qui a été en manque de repères collectifs, elle a été menée au score 1-0, elle a su réagir pour pouvoir revenir dans la partie, mais visiblement au sein de l'opinion publique marocaine et d'après ce qu'on a vu lors de cette confrontation, ce sera une véritable mission impossible que de revenir de Bamako avec la qualification, étant donné aussi les conditions climatiques, puisque les Marocains affronteront en terre malienne lors de la période des pluies, ce n'est pas Yacouba ou ce n'est pas par exemple Amélie qui me démentira, sur une pelouse gorgée d'eau, avec un gazon très mal entretenu, les Marocains auront du mal à s'imposer. Mais visiblement, d'après les dernières déclarations, Patrice Baumel compte sur un match d'homme. Il compte évidemment s'appuyer sur un jeu beaucoup plus direct pour pouvoir surprendre l'adversaire. Mais on rappelle qu'un 0-0 qualifierait les Maliens pour la phase finale. Une phase finale qui aura lieu, rappelons-le, en Égypte. On rappellera aussi le Graal. Les trois premiers de cette CAN seront qualifiés directement pour les JO de Tokyo qui démarrent le 24 juillet prochain, le 24 juillet 2020. Et une quatrième place pourrait être octroyée en cas de victoire de la sélection africaine, de la quatrième sélection africaine, face aux représentants asiatiques dans un match barrage en aller-retour.
Dans les autres rencontres, toujours demain, donc, le Nigeria voudra refaire son retard à domicile devant le Soudan, 21-0 à l'aller. Donc, opération confirmation pour l'Afrique du Sud en déplacement au Zimbabwe, battu 5-0 à l'aller. Avance pour la Guinée victorieuse face à la Côte d'Ivoire à Abidjan 1-0. Le Cameroun sera en Tunisie avec un but d'avance sur les Tunisiens, défait 1-0 à Yaoundé. Rien n'est encore joué entre l'Algérie et le Ghana après le match nul 1-1 à Accra. Parlons des matchs amicaux qui ont eu lieu, ça et là, sur le continent. Amine l'évoquait tout à l'heure, après une belle CAN 2019, le Bénin poursuit toujours sur sa belle lancée. Les écureuils ont dominé la Côte d'Ivoire en match amical 2-1, alors qu'ils étaient menés en ligne de mire, donc à court terme, les éliminatoires de la prochaine CAN. On écoute Michel Dussuyer, sélectionneur du Bénin.
Les deux campagnes éliminatoires qui vont débuter à partir du mois de novembre, avec d'abord la Coupe d'Afrique et puis la Coupe du Monde. Et l'objectif premier, c'est de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. On sait que c'est pour tout le monde, c'est jamais facile de se qualifier. Il faut être rigoureux, il faut être présent, parce que les matchs sont toujours difficiles à jouer, les points sont toujours difficiles à prendre, et il faut se battre tout le temps. Donc ne pas se relâcher. On a des adversaires déjà au mois de novembre avec le Nigeria et la Sierra Leone. Et pour nous, l'objectif, c'est de se qualifier pour la Coupe d'Afrique de 2021.
C'était donc Michel Dussier, sélectionneur des écuries du Bénin, au micro de Élisée Mpatine, que nous avons du mal à avoir ce soir. Alors, Amdine, on a vu le Bénin héroïque hein, lors de la CAN, et le Bénin qui réussit encore à battre la Côte d'Ivoire, même si c'est un match amical, eh bien, ils sont sur une belle lancée, les écuries.
Tout à fait, parce que ce que les Béninois viennent de réaliser, c'est un exploit. Et puis c'est très bon pour le moral, parce qu'au sortir de la CAN, ils ont fait quand même un parcours très honorable. Ils sont même entrés dans l'histoire en se qualifiant pour la première fois quand même au second tour. Ils sont sur cette lancée, ils ont battu la Côte d'Ivoire. Ça peut être leur match référence pour la suite de la compétition, parce que nous aussi au Sénégal, à un certain moment, c'était comme ça. On ne parvenait pas à se qualifier à des Coupe d'Afrique des Nations, mais le jour où on a joué, on a fait jeu égal avec la grande équipe du Maroc, ça a été un match référence pour le Sénégal, et depuis lors, le Sénégal est entré dans la cour des grands. C'est tout le malheur que je souhaite aux écuries du Bénin, Yacouba.
Merci Amdine. Si depuis Dakar, donc, et on va le rappeler, le Sénégal ne joue pas de match amical durant cette trêve, et décision de la fédération, disons. Thierry, la RDC, elle aussi, n'a pas joué. On s'attendait à avoir la grande première pour le nouvel entraîneur, ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas été le cas. Christian Thierry est pour le moment préoccupé par la préparation de l'État appris, de l'État locaux, qui vont bientôt entamer les éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations. Et donc, voilà, il est avec eux. Le championnat vient de démarrer. Il a du mal déjà à réunir les joueurs de Mazembe, des acteurs de Guéry, qui sont en compétition africaine. Donc voilà, dans ce contexte, et puis avec cela, l'installation du nouveau gouvernement et tout ce qu'il y a comme difficulté au plan administratif, à sortir, à disponibiliser les moyens pour que les joueurs jouent en amical. On va accepter, voilà, je crois que la Fédération économique de football, l'association avec le ministère des Sports, qui se passer de cette semaine ou de ces différentes dates FIFA. Le part de la RDC n'a pas joué le nombre de matchs internationaux et la petite première pour Christian Thévillier de son espace attendra en tout cas toute prochaine échéance, car pour le moment il est concentré sur les néopards locaux de la RDC.
Et puis, Amine le rectifiait donc tout à l'heure, le Maroc, hein, les Lionceaux locaux, les Lions locaux, disons, dans le cadre de leur préparation, ont battu le Burkina Faso 1-0 en amical. Mais bien avant, les Lions A ont fait match nul avec les Étalons également 1-1. C'était une grande première hein, pour le nouveau coach des Lions de l'Atlas, Vahid Ali Le Juste, que nous écoutons.
On n'était pas assez cohérents et très serrés entre lignes, parce que oui, avec permutation, surtout dans l'axe, et verticalement, horizontalement, avec Peter Pack qui descend comme là, les autres deux joueurs qui remontent, ils ont créé un petit peu de problème. Après, Bernard Traoré, sur le côté droit, qui a fait pas mal de belles actions. Mais je dis encore une fois, c'est pas meilleure équipe de Maroc, le gars qu'ils ont fait ce soir. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient faire comme ça. Ils peuvent faire un petit peu mieux. Mais on a créé 4-5 super occasions, surtout premier mi-temps. C'est vite qu'on a pris un petit peu de déstabiliser, mais j'apprécie beaucoup réaction après ce but.
Vahid Ali Le Juste, donc sélectionneur du Maroc, au micro d'Amine Birouk. Alors Amine, Vahid essaie de se défendre comme il peut, mais ce qu'on retiendra, c'est qu'il y a eu du bon comme du moins bon dans ce match-là.
Un match vraiment mitigé où on a vu quelques beaux enchaînements de la part de l'équipe du Maroc, quelques ratés, notamment le pénalty de la part de Ziyech, c'est le deuxième consécutif après celui manqué face au Bénin à la 94e minute d'un triste huitième de finale de CAN. On a vu aussi beaucoup de tâtonnements. Il est vrai que de nombreux cadres ont manqué à l'appel, soit parce qu'ils ont atteint la limite d'âge, soit parce qu'ils sont blessés ou mis à la disposition de la sélection olympique. Donc Vahid a procédé à une large revue d'effectifs et il est vrai qu'il y avait un manque d'automatisme, notamment au niveau de la défense. L'équipe du Maroc va poursuivre demain sa préparation avec une deuxième rencontre amicale face au Niger, en attendant d'entrer dans le vif du sujet au mois de novembre prochain avec le début des éliminatoires de la CAN 2021, avec un premier match à domicile devant la Mauritanie et un second en déplacement au Burundi. D'ici là, Vahid devra certainement mettre son empreinte sur le jeu de cette équipe du Maroc et surtout apporter un peu de sérieux. La barre laissée par Hervé Renard est assez haute. On compte au Maroc sur le sérieux et la rigueur de coach Vahid pour pouvoir remettre le train marocain sur le meilleur rail possible.
Parlant toujours de ces matchs amicaux, l'Ukraine affronte le Nigeria toujours demain. Le Maroc joue donc contre le Niger, comme le disait Amine tout à l'heure. La Tunisie affronte la Côte d'Ivoire. Sporama revient tout de suite. Basketball. À présent, la Grèce du MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, ne verra pas le top 8 du mondial de basket après sa victoire insuffisante sur la République tchèque 84-77. Les Grecs avaient besoin de l'emporter avec 12 points de cas pour passer. Ça n'a pas été le cas. Et c'est leur défaite, hein, surtout, hein, contre le Brésil 78-79 qui leur a coûté cher. Les quarts de finale opposeront mercredi les États-Unis à la France et l'Australie à la République tchèque. Dans l'autre moitié du tableau, bien mardi, demain donc, l'Espagne affrontera la Pologne et la Serbie défiera l'Argentine. On en vient à l'élimination des 5 représentants africains. La Côte d'Ivoire, l'Angola, le Nigeria, la Tunisie et le Sénégal sont out. En s'inclinant devant la Jordanie, hein, sur le score de 79-77 en match de classement, eh bien, le Sénégal concède non seulement son 5e revers en autant de sorties, mais rate aussi, hein, la qualification au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Alors, Amdine, dans votre journal en ligne Sport 221, vous avez titré « Basketball mondial 2019, la participation des Lions tourne au fiasco ». Dites-nous pourquoi.
Oui, Yacouba, la participation du Sénégal a tourné au fiasco. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le Sénégal quitte la Chine avec 0 victoire. Contrairement à la dernière édition, c'était en Espagne en 2014, les Lions avaient réussi une excellente performance en se hissant pour le 8e de finale. C'était une première pour l'histoire du basketball sénégalais. Mais pour cette fois-ci, comme vous l'avez dit tantôt, 5 matchs, 5 revers. Pour la première phase, on pouvait comprendre parce que c'était vraiment, on est tombé sur un groupe de feu avec l'Australie qui vient de battre la France. Il y a le Canada et la Lituanie. C'était des équipes vraiment de renommée internationale. Mais pour les bases de classement, on s'est fait battre par l'Allemagne et ensuite par la Jordanie. Mais il faut dire, Yacouba, ce fiasco est dû en grande partie à une mauvaise gestion, hein, du président de la fédération, mais également des membres, puisqu'il ne faut pas se voiler la face. C'est un échec des dirigeants du basket sénégalais qui ont osé quand même remplacer l'entraîneur qui a qualifié cette équipe du Sénégal. Ils l'ont remplacé au début du mois d'août. À moins d'un mois de la compétition, on change d'entraîneur celui qui a qualifié l'équipe. Et l'équipe s'est allée plus préparée. L'équipe avait 3 tournois, mais il faut reconnaître, les joueurs et l'entraîneur ont dit que la préparation n'était pas suffisante parce que l'équipe ne peut pas tenir plus de 20 minutes. Mais c'est un scandale. Une équipe qui participe à la Coupe du Monde, la plus prestigieuse compétition, et sur le plan physique, qui n'est pas prête. C'est grave, mais on attend quand même le retour des dirigeants, du directeur technique, pour tirer quand même le bilan de cette participation sénégalaise qui a été un fiasco, je le répète, Yacouba.
Merci bien, Amdine. Alors, Jules, on a le Nigeria finalement qui s'est qualifié pour le tour qualificatif des JO de Tokyo 2020. C'est le moindre mal.
Oui, mais bien sûr, le Nigeria qui est pour le moment quand même le leader du basketball africain depuis ces dernières années et qui est régulier dans l'effort, qui a fait des scores honorables devant des équipes d'un certain niveau. Et donc, ma foi, il n'est pas étonnant de voir le Nigeria apparaître fait et c'est une bonne chose pour le basketball africain.
Alors, Thierry, aucun pays sur les 5 engagés n'a franchi le premier tour. Au moment où le Malien Aman Niang a pris les rênes du basketball mondial, devenant le nouveau président de la FIBA Monde, il y a quand même un grand chantier en Afrique.
Yacouba, je l'ai dit la semaine dernière que la barre est tellement haute au niveau de ce championnat du monde avec des équipes comme les États-Unis, avec ce que j'ai vu faire l'Australie face à la France, que voilà, l'Afrique n'y arrivera pas. Nous avons 14 personnes atteindre. Nous avons une marge qui reste d'une très très grande importance au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation même du basketball sur le continent. Ce n'est pas par quelques joueurs qu'on a à la NBA.
Merci bien.
On va réussir à s'en sortir.
Merci bien Thierry Kamboudi. Demain n'est pas la veille, donc comme on le dit, Sporama qui s'achève ici à la conseille Wojtek Zorniak, à la réalisation Joselle Mauricin, Yacouba Ouédraogo devant ce micro. On se retrouve la semaine prochaine. VOA Afrique.